Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ce matin, nous allons parler sainteté. Un peu décalé vont se dire certains quand la France relève la tête et sort de l'épidémie du coronavirus, quand chacun d'entre nous, pour retrouver le moral, a davantage besoin de penser aux vacances d'été ou au prochain bon dîner à organiser entre amis. Et si la sainteté n'était pas autre chose que cela, se battre, souffrir, espérer, avoir envie de vivre, rire, se détendre, mais le tout en présence de Dieu. C'est certainement en partie pour dépoussiérer l'idée que l'on se fait de la sainteté que le pape François a écrit « Gaudete et exultate », cette exhortation apostolique parcourue ensemble au long de cette année, un texte pour nous persuader que la sainteté, c'est aller de l'avant chaque jour, pour reprendre ses mots, et être reflet de la présence de Dieu. Lecture de Gaudete et exultate, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Ce matin justement avec nous pour nous accompagner dans cette dernière émission, dernière lecture de ce si beau texte, Jean-Emmanuel de Hénin. Vous êtes prêtre religieux carme et enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et puis, vous êtes fidèle au poste, puisque vous nous avez aussi accompagnés à l'occasion de ce temps de confinement pour une belle émission intitulée « L'écho de Pâques ». Aujourd'hui, on parcourt donc le cinquième chapitre, dernier chapitre de cette exhortation apostolique. Je le rappelle, pour un tout petit peu de pédagogie, pour accompagner les auditeurs, ces grands chapitres de ce livre assez facile d'accès, l'appel à la sainteté, avec cette phrase du pape François, la sainteté de la porte d'à côté ou la sainteté des classes moyennes, les deux grands ennemis de la sainteté que le pape dénonce, le gnosticisme, on a pris le temps de regarder, le pélagianisme, vous nous en direz peut-être un mot. Après, il y a un long développement sur les béatitudes, quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel, et donc le cinquième chapitre qu'on va parcourir aujourd'hui, combat, vigilance et discernement. Jean-Emmanuel de Hénin, est-ce que vous avez le sentiment que une des raisons pour lesquelles le pape aurait écrit ce texte, même si on n'est pas dans sa tête ni dans les secrets, c'est que la sainteté a bien besoin d'être dépoussiérée, ou en tout cas l'idée que l'on s'en fait?
Oui, absolument, absolument. Je suis convaincu de cela. Et puis, c'est vraiment de cela dont nous avons besoin, nous redonner le sens de l'essentiel. Au lieu de se perdre dans les petites querelles de chapelle, la vraie question, c'est de savoir comment répondre à l'appel de Dieu, comment être en communion avec lui dans le quotidien, dans ce que nous sommes, dans nos difficultés quotidiennes, et donc d'avoir des éléments pour discerner quel est l'appel de Dieu concret dans notre vie concrète. Et je crois que ce confinement, paradoxalement, nous aura certainement aidé à se prendre en charge, c'est-à-dire à ne pas être dans une sainteté de consommateur. On met les pieds et puis on attend que ça vienne tout seul, un peu, qui est un peu notre tendance, en tout cas occidentale, à la consommation, mais d'être là. Comment prendre en charge? Comment je suis responsable de ma réponse à cet appel à la sainteté?
Il y avait deux... Vous vouliez aussi nous dire un mot sur ces deux grandes tentations, ou deux hérésies même, que le pape François dénonce, ces deux hérésies qui avaient cours au début de l'histoire de l'Église, mais à entendre le pape François, aujourd'hui, elles ont cours aussi dans notre Église, y compris dans notre monde occidental, donc on peut imaginer dans notre France et même dans notre Sud-Ouest.
Voilà, alors, c'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que... comment dire, dans cette encyclique, le pape traverse beaucoup de thèmes différents. On est plus ou moins sensible à tel ou tel aspect, c'est normal. Par exemple, bien sûr, les saints de la porte à côté, ça va marquer comme type de manière de présenter la sainteté, pour dire que c'est la sainteté ordinaire, finalement, que c'est la sainteté du baptême. Nous sommes tous appelés à cette sainteté, et non pas une sainteté extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment des choses qui marquent. Mais c'est vrai, dans le deuxième chapitre, le pape François développe deux anciennes hérésies dont il pense qu'elles ont encore cours aujourd'hui, dans notre Église d'aujourd'hui. Deux hérésies qui ont pour nom des noms un peu barbares, le gnosticisme et le pélagianisme. Le gnosticisme, c'est facile à comprendre par certains côtés, c'est la gnose, la connaissance. En fait, en relisant et en préparant cette émission, l'un c'est un péché de l'intelligence, et l'autre, c'est un péché de la volonté. Le péché de l'intelligence, c'est-à-dire que c'est le dévoiement de l'intelligence, croire que l'intelligence est toute puissante. Et dans notre monde contemporain, c'est le fait de croire que parce que nous savons, nous faisons. Et ça a été déjà le problème des pharisiens. Je me souviens particulièrement de l'épisode avec l'aveugle né dans l'évangile de Jean. « Nous, nous savons, disent les pharisiens à l'aveugle, toi, tu es pécheur depuis ta naissance, tu ne sais rien. » Et c'est ça que dénonce le pape François.
Appliqué à la fois, si j'ai bon souvenir, ce sont les personnes qui ont réponse à tout. Pour qui Dieu
voilà.
Est presque plus
et
un
puis,
mystère.
Et puis, oui, d'une part, réponse à tout, mais c'est aussi, alors c'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est une vraie question, c'est celle du mépris des élites pour la populace, que l'on a tous fait de traiter de masse ignorante. Nous, nous avons fait de la théologie, nous savons, nous avons réfléchi, nous sommes rationnels, vous ne savez pas. Et ça, c'est une tentation qui est une tentation d'orgueil, hein, tout simplement, et d'orgueil de l'intelligence dans ce cas précis.
Et le pélagianisme, en quelques mots, c'est la...
Et le pélagianisme, ce n'est plus l'intelligence, c'est la volonté, le volontarisme. C'est-à-dire qu'on peut y arriver, à la force du poignet, on va arriver à la sainteté. Et c'est du coup, ça devient une sainteté qui est le stoïcisme, hein, le stoïcisme chrétien. Hein, c'est-à-dire que, en fait, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce qui n'est absolument pas dans l'évangile et qui n'est pas du tout dans la logique de l'évangile, sauf que ce terme accourt encore dans nos esprits, dans nos têtes, et donc il dénonce aussi cela, un peu cette rigidité, qui ferait croire que la sainteté, c'est à coup de poignée qu'on va y arriver, sans tenir compte de la fragilité des faiblesses. Et surtout, il dit, le plus important, ce sont les vertus théologales, foi, espérance, charité. Et s'il n'y a pas cela, on aura beau avoir une vie morale apparemment très très solide, s'il n'y a pas ces trois vertus théologales, on n'est pas en lien avec Dieu. Et la sainteté, c'est le lien avec Dieu d'abord et avant tout.
Alors, c'est un préambule qui, quelque part, rejoint donc ce chapitre qu'on va parcourir, combat, vigilance et discernement, parce que si on doit discerner, être vigilant, et si l'on a un combat à livrer, certainement que ces deux grandes hérésies qui nous parcourraient en partie le cœur sont des lieux d'un grand combat. Le pape François commence comme ça, donc c'est le paragraphe 159, pour ceux qui suivent même avec le texte. Il ne s'agit pas seulement, à propos du combat, d'un combat contre le monde et la mentalité mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres et dépourvus d'engagement et sans joie. On retrouve, on va dire, la verdeur du pape François. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité, contre ses propres inclinations. C'est aussi une lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal. Alors j'ai fait un tout petit exercice pour vous lancer sur ce thème qui parcourt le début de ce cinquième chapitre sur le diable. C'est de regarder sur YouTube, puisque c'est comme ça que nos contemporains font, beaucoup d'entre nous aussi, pour aujourd'hui s'informer. Alors on ne trouve pas grand-chose, beaucoup de clips. Et alors une chanson de Johnny Hallyday, « J'en parlerai au diable », où on voit Johnny Hallyday parcourant les routes des États-Unis sur sa Harley Davidson et disant que quand il arrivera en haut, il parlera de tous ses écarts au diable. Est-ce que dans le fond, dans cette belle chanson, hein, mais qui m'a fait aussi sourire, il n'y a pas là quelque chose aussi de très profond quant à l'approche que l'on a au diable ? Le diable, on minimise son existence ou voire on imagine qu'on peut le tutoyer ?
Bien entendu, c'est tellement plus simple de le caricaturer, d'y voir un petit diablotin avec des cornes, avec sa fourche, un peu Tintin et Milou, là vous voyez les deux, le petit diablotin et le petit ange à côté de Milou, c'est tellement plus simple de caricaturer, alors que la vraie question que pose ici le pape François, c'est qu'il y a un vrai combat, et un combat à mener, et que ce combat est rude, et qu'il y a, dans la vie chrétienne, il y a une forme de violence. Au chapitre 158, juste avant, qui introduit donc cette cinquième partie, la vie chrétienne est un combat permanent. Et c'est ça que nous risquons d'oublier lorsqu'on est dans le confort, lorsqu'on est dans le conformisme, lorsqu'on est dans une forme de quiétude. Moi, je trouve que souvent, confort va avec conformisme, hein, et que... Une vraie vie chrétienne n'est pas une vie confortable, c'est une vie de combat. De combat contre quoi ? Mais contre le mal, et contre le malin, qui est celui qui va susciter ce mal, qui va essayer d'éveiller ce mal. Alors c'est facile...
Alors qui est ce malin ? Parce que le pape François, un peu plus loin, je retrouvais le passage, je ne le retrouve pas, laisse entendre que ce n'est pas un mythe, il désigne un être personnel qui nous harcèle, chapitre 160.
Tout à fait. Au paragraphe 160, hein, il va bien insister sur le fait que, au 161 plus exactement, hein, ce n'est pas un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Et là, le pape François, quand même, est très clair, très explicite, parce qu'il prend position dans un débat théologique. Un certain nombre de théologiens ont essayé de révisiter, si vous voulez, la théologie du diable, de ce qu'il représente. Et donc, on dit, mais c'est pas vraiment une personne, c'est une anti-personne, ce n'est pas une efficience, c'est une déficience. Tout cela sont des débats extrêmement complexes, donc il s'agit
des des débats actuels, puisque
oui, des débats théologiques
d'un jésuite fort connu qui avait laissé entendre justement que ça n'était qu'une idée.
Oui, oui.
Présentation.
Alors voilà, mais ce sont des vrais débats théologiques qu'il faut pas minimiser, bien sûr, ils sont nécessaires ces débats. Mais enfin, lui, le pape François, je ne sais pas quelle est son expérience dans ce domaine spirituel très très concret, il réaffirme, comme l'avait aussi réaffirmé Paul VI, l'existence réelle du diable comme personne. Et donc, il prendre cette position est une position courageuse, grave, avec gravité, je dirais, qu'il faut prendre au sérieux, en tout cas qu'il nous invite à prendre au sérieux. C'est lui le pape, c'est le magistère pour nous, il traduit quelque chose. Peut-être qu'il a une expérience de ce mal à l'œuvre dans le monde et dans l'Église, qu'il invite à exhorter, à nous exhorter, chacun d'entre nous, chrétiens, à prendre conscience qu'il y a bien un combat hein, spirituel qui se joue en nous. Et puis, il va dire aussi au chapitre 158, « Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque jour le Seigneur vainqueur dans notre vie. » Quand on dit lutte, ça ne nous fait pas plaisir. Le fait qu'il y ait un combat, ça ne nous fait pas plaisir. On aimerait tellement que ça soit confortable. Mais il dit, si l'on veut que Jésus soit le vainqueur dans notre vie, ben, il faut se mener ce combat. Et or, comment on sait, on vient de l'entendre d'ailleurs dans la liturgie cette semaine, il est déjà vainqueur. Nous savons déjà l'issue de ce combat. Si nous laissons vaincre le Seigneur, eh bien, cette lutte devient belle. Mais il faut savoir contre qui on se bat. Et c'est pour ça qu'il insiste tellement fortement sur ce mystère du mal dans la personne du diable. D'ailleurs, ça me permet juste de préciser quand même une petite chose à nos auditeurs que j'entends très très souvent d'un point de vue pastoral. On nous demande, non, mais est-ce que vous croyez au diable ? Et il m'arrive très souvent de dire non. Ah, scandale ! Non, je crois à l'existence du diable. C'est très important de faire la distinction. Oui, je crois que le diable existe. Je ne crois pas en lui. Moi, je crois en Dieu. En Dieu, le Père, Fils, Esprit Saint, je crois qu'il est le vainqueur. En revanche, je crois qu'il existe un esprit du mal qui reste mystérieux, mais qui fait partie de la réalité de notre vie spirituelle. Et là, le pape va énormément insister là-dessus, probablement à l'étonnement d'un certain nombre de théologiens.
Donc il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les vices, et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles, nos communautés, car il rôde, et là le pape cite l'écriture, comme un lion rugissant et cherchant qui dévorait. Un autre passage, mais vous l'avez sous-entendu, est intitulé en tout cas un sous-chapitre « Éveillé et confiant ». Laissant entendre que dans cette lutte, il y a, on va dire, une confiance profonde, puisque ce n'est pas un dieu. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur un autre point avant de faire une première pause musicale, c'est donc la corruption spirituelle. Le pape François a quelques mots, j'en citerai un, « Car ceux qui ont le sentiment qu'ils ne commettent pas de fautes graves contre la loi de Dieu peuvent tomber dans une sorte d'étourdissement ou de torpeur. » Comme ils ne trouvent rien de grave à se reprocher, ils ne perçoivent pas cette tiédeur qui peu à peu s'empare de leur vie spirituelle. Ils finissent par se débiliter et se corrompre. Je me suis replongé dans quelques propos aussi de Fabrice Hadjadj, qu'un certain nombre d'auditeurs doivent connaître, qui est un philosophe et un essayiste aujourd'hui assez connu, qui avait écrit un livre qui s'appelle « La foi des démons ou l'athéisme dépassé ». Il disait à propos du diable qu'une de ses forces, contrairement à ce qu'on imagine, c'est qu'il connaît Dieu comme chacun d'entre nous, Et alors, avec le mordant qu'on lui connaît, Fabrice Hadjadj, en provoquant, disait « Le nec plus ultra de la possession diabolique est l'hypermilitantisme traditionnaliste ou progressiste qui consiste à se sentir meilleur tout en pouvant se poser en minorité persécutée. » C'est quoi la corruption spirituelle, Jean-Emmanuel de Hénin, dont nous parle le pape François ?
Mon Dieu, mon Dieu. Alors là, vous abordez beaucoup, beaucoup de thèmes différents. Je voudrais l'aborder avec le pape François, avec cet aspect d'un empoisonnement. Vous voyez, symboliquement, de Genèse 3, le diable, c'est le serpent. Hein. Et le serpent, ben, tout le monde le sait, est doté d'un poison. Et le poison, il agit progressivement. C'est-à-dire qu'on est mordu par le serpent et ce n'est pas tout de suite qu'on meurt. Enfin, sauf quelques rares cas de poison plus fort, mais la plupart des fois, ça va. C'est pour ça qu'on peut être sauvé. J'ai vécu cette expérience en direct quand j'étais au Sénégal, donc je sais ce que c'est d'être mordu par un serpent. Et il y a quelques heures, le temps que le poison traverse tout le corps. Et c'est exactement ça, la corruption. C'est-à-dire que c'est un poison progressif qui progressivement va paralyser, va atteindre les différents membres et souvent silencieusement. C'est pas sans me rappeler le virus actuel, vous voyez, le virus est invisible, on le voit pas, on voit pas tout de suite, il y a même des gens qui portent le virus et qui sont asymptomatiques. C'est ça que dit le pape ici dans la corruption spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut se croire bien, on peut être suffisant. Cette expression me semble très forte, la suffisance, vous voyez, la suffisance spirituelle. Je me suffis à moi-même, je n'ai besoin de rien, moi ça va. J'ai une vie confortable.
Même si apparemment, on peut avoir besoin de Dieu. C'est-à-dire qu'on a pour autant une vie
On parle de Dieu. On parle de Dieu. On croit défendre Dieu. On défend une certaine vision de Dieu. Mais est-ce qu'on a besoin de Dieu ? Vous voyez, c'est très subtil. C'est très subtil. Est-ce que Dieu intervient réellement dans ma vie ? Lorsque j'ai des problèmes concrets, lorsque je suis touché par mes propres vulnérabilités, est-ce que je les cache à la face de Dieu ? Ou est-ce que je les lui soumets, je lui présente ? Or, très souvent, malheureusement, très souvent, au nom de Dieu, on va imposer une certaine idée, on va faire la leçon aussi aux autres très très fortement, parce que nous on sait, les autres sont des ignorants, sont des païens, ou ne sont pas de notre bord, nous on est du bon côté, on est du côté de la vérité, et du coup on n'assume pas la corruption qui est en nous, c'est-à-dire le poison. Est-ce que je me suis attaqué au poison qui est en train de me paralyser ? Et ça, c'est en fait extrêmement subtil. C'est un aveuglement. Vous voyez, je reviens d'ailleurs à l'épisode de l'aveugle né. Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi ? Demandent les pharisiens à Jésus. Si vous étiez aveugle, il n'y aurait pas de problème. Mais puisque vous dites que vous voyez, partez avec votre aveuglement. L'aveuglement spirituel.
Paragraphe 165, la corruption spirituelle est pire que la chute d'un pécheur car il s'agit d'un aveuglement confortable et autosuffisant où tout finit par sembler licite, la tromperie, la calomnie, l'égoïsme et d'autres formes subtiles d'auto-référentialité, terme cher au pape François puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière et il cite Corinthien dans les Écritures. On fait une première pause musicale et puis on vous retrouve Jean-Emmanuel de Hénin pour cette lecture de Gaudete et Exultate en son cinquième chapitre, combat, vigilance et discernement. Thank you.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Gaudete et Exultate, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce grand et beau texte que l'on a parcouru au long de cette année, en français « La joie et l'allégresse » du pape François, exhortation apostolique sur la sainteté. Et aujourd'hui, pour nous accompagner dans la fin de cette lecture, le cinquième chapitre « Combat, vigilance et discernement », nous sommes avec Jean-Emmanuel Dehéna, un des habitués de cette antenne, prêtre religieux carme et enseignant à l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse. Dans ce cinquième chapitre, qui a deux portes d'entrée, le combat et la vigilance et le discernement, je vous propose juste d'introduire donc cette deuxième partie qui est le discernement. Alors pas forcément en citant le pape François, mais en tout cas le texte, en insistant ou en éclairant ce que le pape François entend par le discernement, en tout cas plutôt son insistance sur le discernement. J'ai retrouvé entre autres une phrase, c'était à l'occasion de la 31e journée mondiale de la jeunesse. Le pape François avait rencontré un certain nombre de jésuites. Il leur avait dit « l'Église doit grandir dans sa capacité de discernement ». C'est une phrase qui revient souvent. Et le pape François utilisait entre autres cette expression « dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Non, les nuances de gris prévalent dans la vie ». Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce souci que le pape François adresse à chacun d'entre nous et souvent à vous aussi, les pasteurs, de grandir dans cette capacité de discernement? Pourquoi, Jean-Emmanuel Dehéna?
Pourquoi? Parce que c'est effectivement fondamental. Nous avons parlé en première partie de l'esprit du mal, du malin. Il faut faire un discernement des esprits. Qu'est-ce qui vient de l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui vient de l'esprit du mal? Qu'est-ce qui vient de notre propre esprit, de nos propres histoires? Et donc, effectivement, c'est plein de nuances. Il faut, à chaque fois, chaque situation nouvelle qui se présente à nous, peut-être même à chaque jour, mais en tout cas, c'est ce que propose le pape, il faut perpétuellement demander la grâce du discernement. Là, on est à la veille de Pentecôte, c'est parfait. Demander l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous aider à discerner si il faut aller dans tel sens ou dans tel autre. Or, cela ne peut pas se faire dans le brouhaha, ne peut pas se faire d'un coup de cuillerée à peau, ou ça ne peut pas se faire non plus comme des recettes qui, toutes prêtes, qu'il s'agirait de trouver le bon bouton, et puis j'appuie sur le bon bouton, et ça y est, j'ai trouvé la solution. C'est absolument pas ça. Le discernement des esprits suppose une intériorisation, suppose de rentrer en soi-même, suppose d'interroger comment on se sent, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui me rend heureux. Ici, au paragraphe 168, il va dire, il nous appelle à examiner ce qu'il y a en nous, et qu'est-ce qu'il y a en nous? Des désirs, des angoisses, des craintes, des aspirations. Et il peut bien sûr rajouter des tas d'autres choses. Là, quand je vis telle chose, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend malheureux? Voilà, un premier discernement. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe en dehors, en cette période d'épidémie, de pandémie? Les signes des temps, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que l'esprit est en train de nous dire à travers cette situation que tous nous vivons ensemble, nous subissons? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous appeler à changer de vie? Mais comme je ne peux pas avoir de réponse toute faite, d'ailleurs personne n'était prêt à cette situation, à ce signe des temps particulier qu'a été la pandémie, eh bien il me faut retrouver une liberté dans l'esprit. Et ça, c'est très, très important parce que c'est chaque jour que cela se présente.
Alors, je citerai justement deux passages pour continuer d'introduire cette notion de discernement. C'est donc le paragraphe 167. « Aujourd'hui, l'aptitude au discernement est devenue particulièrement nécessaire, dit le pape. En effet, la vie actuelle offre d'énormes possibilités d'action, de distraction, et le monde les présente comme si elles étaient toutes valables et bonnes. Et puis un peu plus loin, sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du moment. » Ou paragraphe 169, le discernement n'est pas seulement nécessaire pour les moments extraordinaires, ou quand il faut résoudre de graves problèmes, je vais y arriver, ou quand il faut prendre une décision cruciale, c'est un instrument de lutte pour mieux suivre le Seigneur. Est-ce que vous pouvez prendre des exemples, Jean-Emmanuel Dehéna, si on revient un tout petit peu en arrière, ou alors je vous laisse en choisir d'autres, quand on disait que le diable nous empoisonne par la haine, la tristesse, l'envie ou les vices, si on doit faire atterrir ou essayer d'expliquer ce qu'est ce discernement, comment le décrire ?
Alors, il y a, comme l'explique le pape, ça se joue souvent dans des petites choses qui semblent négligeables. Et il propose pour ça de faire un examen de conscience. Prenons des choses très concrètes. À la mi-journée, ou plutôt le soir, c'est souvent le cas, je fais une révision de ma journée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Alors, par exemple, j'ai été heureux, il faisait beau ce matin. J'ai vécu un beau moment en me réjouissant de cette beauté. Et je m'interroge, est-ce que j'ai remercié Dieu pour ce soleil ? Est-ce que j'ai pris le temps de rendre grâce, de louer Dieu pour sa création ? Il y aura des jours où je pourrais dire « oui, j'ai pris le temps de faire ça », puis d'autres jours, je me dirais « non, je n'ai pas pris le temps ». Eh bien, je le remets entre les mains du Seigneur et je demande au Seigneur de m'aider à développer, par exemple, cette aptitude à la louange, cette aptitude à l'admiration. J'ai vu tel ou tel geste de solidarité entre une personne âgée et un jeune, par exemple. Donc, je m'en suis réjoui. Ou moi-même, j'ai eu une intuition qu'il fallait que j'appelle telle personne parce que je savais qu'elle était isolée en cette période de confinement. Et donc, je me suis senti poussé à l'appeler. Est-ce que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait ? C'est ça le discernement, c'est très concret.
Donc c'est simplement relire ses journées.
Simplement, c'est pas si simple.
En essayant de voir ce qui nous rendait heureux ou pas.
Oui, pas seulement heureux ou malheureux. C'est-à-dire, est-ce que j'ai suivi l'inspiration de l'esprit ou est-ce que j'ai suivi le mauvais esprit ? Par exemple, parce que ça, c'est, je viens de donner un exemple positif, mais il y a aussi les exemples négatifs, malheureusement. C'est-à-dire, j'ai été contrarié par telle chose, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Au lieu de prendre le dessus, au lieu de humblement reconnaître que c'est stupide de m'énerver pour cette chose-là, et donc de prendre du recul, de respirer, de le remettre entre les mains de Dieu, j'ai dit « Oh, ben, j'ai bien raison de m'énerver, de toute façon c'est comme ça, de toute façon ça se passe toujours comme ça. » Et j'enchaîne, et donc ma mauvaise humeur se répercute sur ma famille, qui se répercute sur mon travail, qui se répercute sur ma manière de conduire, qui fait que peut-être j'ai un petit incident. Vous voyez, c'est très concret. C'est dans ce concret-là que va se poser la question et que je dois relire pour, à chaque jour, me remettre à disposition de l'esprit pour voir si ça sonne juste ou si ça sonne faux. C'est comme si je refaisais la musique de ma journée. Est-ce que là, c'était juste ou c'était pas juste ? Est-ce que c'est sonné faux ou ça sonnait juste ? Chacun de nous a cette capacité en accord avec l'Esprit-Saint. C'est-à-dire, je demande, je ne peux pas m'accorder avec moi-même. Donc, je suis comme des instruments de musique, vous voyez. On ne s'accorde pas tout seul. On cherche le « là », le début du concert. S'il n'y a pas ce temps d'accord, je vais partir sur ma musique, mais une musique probablement faussée et en tout cas pas en accord avec celle des autres. Eh bien, c'est la musique de l'Esprit Saint qui m'est demandé de faire. C'est ça, l'art du discernement. Et je ne peux pas jamais dire, ça y est, c'est bon. Ma musique est parfaite tout le temps, en tout lieu. C'est faux.
Il faudrait accorder l'instrument tous les jours.
Tous les jours. En réalité, il faudrait même à chaque instant, à chaque minute. Ça serait l'idéal si nous pouvions aller dans ce sens-là. Bon, comme nous sommes des êtres fragiles, eh bien, au moins le faire tous les jours, régulièrement. Et c'est cette mise en accord. Moi, j'aime bien le mot « accord » parce que c'est le cœur à cœur. Vous voyez, « cordis » en latin signifie « cœur » et le mot « accord » vient de là. Donc, se mettre dans le cœur à cœur avec Dieu. C'est le sacré cœur de Jésus, le cœur d'amour qu'est Dieu, qui nous invite à nous accorder à cet amour. Et cet amour, il n'est pas spontané, ce n'est pas un sentiment. C'est une question de justesse dans les actes que nous posons.
Paragraphe 170, il est vrai que le discernement spirituel n'exclut pas les apports des connaissances humaines, existentielles, psychologiques, sociales, sociologiques ou morales, mais il les transcende. On pourrait prolonger. Je voulais m'arrêter sur ce passage parce que chacun d'entre nous, en vous écoutant, peut se dire que c'est un travail bien subtil que de faire ce travail de discernement. À lire le pape François dans ce passage, on a l'impression qu'il y a comme beaucoup de prérequis aussi. C'est-à-dire, il faut avoir quand même, on va dire, peut-être même une certaine science de la psychologie ou voilà, une certaine constitution morale personnelle. Il faut avoir, en fait, peut-être reçu beaucoup de choses ou même peut-être lu un certain nombre de choses pour arriver à faire ce discernement. Est-ce qu'il faut être Bac plus 5 pour...
Bonne question.
Je dis ça en taquinant. Hein,
bien sûr, bien sûr. Je pense surtout, et ça c'est... Je vais le dire, ça va être une formule très simple, mais en fait extrêmement complexe. Il faut surtout être de plus en plus humain. Il faut s'humaniser. Parce que Dieu veut que nous soyons à son image, pleinement homme, parce que pleinement à son image. C'est tout le paradoxe du christianisme. Le christianisme, ce n'est pas se déshumaniser, ce n'est pas se spiritualiser, ce n'est pas se désincarner. Or, ce que reproche le pape François et que nous reprochent aussi des personnes extérieures à l'Église, c'est d'être des êtres désincarnés. Alors que c'est au contraire, plus je laisse l'esprit travailler en moi, plus en principe je devrais être un être humanisé, qui s'humanise, qui suit le bien, qui suit la voie du bien. Et donc, pour répondre à votre question très concrètement, en fait, si nous étions existentiellement vrais, que nous nous posons des questions sur le sens de notre existence, dans des choses extrêmement concrètes, extrêmement pragmatiques, alors là, nous nous approchons de Dieu. Et dans ce même paragraphe que vous avez cité, 170, il finit en disant « Le discernement, en définitive, conduit à la source même de la vie qui ne meurt pas, c'est-à-dire connaître le Père, le seul vrai Dieu. » En fait, le vrai discernement, c'est de trouver la source de vie qui est en moi et qui, pour nous croyants, est Dieu lui-même. Or, chacun de nous a fait l'expérience qu'il y a des hommes, des femmes qui n'ont pas fait des grandes études, mais qui sont vrais, qui sont humains et qui sont incarnés. Je crois que l'appel à la sainteté, ce n'est pas ne pas faire d'études, ce n'est pas ne pas étudier, mais c'est que ces études soient au service de l'essentiel, soient au service de l'existentiel. Est-ce que ma vie avec Dieu est une question de mort ou de vie?
Est-ce que vous pourriez prendre un exemple d'une personne rencontrée comme ça qui vous revient, qui montre qu'on peut avoir... quand on est humain, comme vous dites, quand on est vrai, pour reprendre votre mot, on a quelque part ces prédispositions qui ne nous dispensent pas d'avoir des connaissances en psychologie, sociologique et autres, mais en tout cas qui sont les dispositions premières à vous entendre.
Oui, alors je prendrai un exemple relativement simple dans lequel beaucoup peuvent se reconnaître, c'est par exemple la situation de parents chrétiens vis-à-vis de leur enfant. Voilà, leur enfant a grandi et ils décident, contrairement à la morale et aux préceptes qu'on leur a transmis, décident de vivre en concubinage avec une compagne et n'ont pas désiré, en tout cas immédiatement, célébrer un mariage chrétien. Bon, ça bouscule, ça pose des tas de questions, mais qu'est-ce que nous avons raté dans notre éducation? Ou est-ce que, pourquoi il n'accepte pas? Et puis, est-ce que je dois le laisser faire, pas le laisser faire? Vous voyez, c'est ce genre de questions qui vont obliger à un discernement. Quelle est ma relation à mon enfant? Est-ce que, et ça je l'ai vécu plusieurs fois en accompagnant les personnes, est-ce que mon amour est un amour vrai vis-à-vis de mes enfants ou est-ce que c'est un amour possessif? Est-ce que, alors là on pourrait dire c'est de la psychologie, vous voyez, psychologie familiale, la relation parent-enfant, oui je le crois, mais c'est un enjeu spirituel. Parce que l'enjeu spirituel qui est présenté, c'est « Est-ce que tu crois que tes enfants, c'est moi qui te les ai donnés, nous dit Dieu ? Est-ce que tes enfants t'appartiennent ou est-ce qu'ils m'appartiennent ? Est-ce qu'ils sont les fils de Dieu ?» Ça peut vraiment bousculer profondément et poser le discernement. Alors, au contraire, je pourrais aussi, dans l'autre sens, dire « Ah ben c'est leur histoire, moi je ne me mêle pas de leur histoire. » Mais ça, c'est de la démission.
Mais en quoi le fait là d'être vrai, puisque c'est le mot que vous utilisiez, dispose à ce discernement?
Mais c'est très clair. C'est très clair. Ça me semble très clair. C'est-à-dire que ma manière de m'adresser à mes enfants sera juste, ajustée. Elle ne sera ni de l'autoritarisme, comme on l'a vu malheureusement parfois, dehors, tu remets plus les pieds chez moi, ce qui est quand même extrêmement dramatique, ni non plus chacun sa vie, déliquescence, aucune relation, le laxisme, vous voyez, ni l'un ni l'autre. Être vrai, c'est être dans la justesse. Quel est le sens du geste que tu viens de poser, que mon enfant ait la possibilité de dialoguer avec moi, de me dire les raisons pour lesquelles il a fait ce choix, que moi je puisse lui dire aussi comment moi je le vis. Vous voyez, et ça, ça me fait évoluer spirituellement. Ça m'oblige à me remettre en question. Il le dit dans le discernement. Ça provoque de la détresse, ça provoque de l'angoisse, mais ça m'oblige peut-être à revisiter ma manière d'être éduqué, ma propre éducation. Est-ce que tout dans mon éducation est selon l'Esprit-Saint ? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que je crois être bonnes et qui sont peut-être pas aussi bonnes que je le pensais ? Toute la difficulté entre sincérité et vérité. Je peux sincèrement me tromper. Je peux croire sincèrement que je veux le bien de mes enfants, alors qu'en réalité, si je fais un discernement, je me rends compte que peut-être il y a de l'égoïsme, que peut-être il y a des peurs, que peut-être il y a du possessif. Vous voyez, c'est très concret. C'est une situation extrêmement concrète. Je m'arrête là, mais je peux vous donner bien sûr des dizaines d'autres exemples.
Vous nous en donnerez éventuellement, on va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour finir de parcourir ce chapitre 5, entre autres de parler de la joie, puisque c'est sur cette note que finit le pape François dans ce cinquième chapitre, et puis comme teasing de cette troisième partie, citer ce sous-chapitre, la logique du don et de la croix, c'est semble-t-il le cœur du combat spirituel que vous avez commencé d'illustrer et dont on parlera à la fin de cette émission.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Gaudete et Exultate, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin en français, cette exhortation apostolique du pape François, la joie et l'allégresse. On parcourt avec ce matin Jean-Emmanuel Dohena, prêtre religieux carme et enseignant à l'Institut catholique de Toulouse, le cinquième chapitre combat, vigilance et discernement. Comme annoncé avant cette deuxième pause, il y a un sous-titre de la deuxième partie sur le discernement de ce cinquième chapitre qui est intitulé « La logique du don et de la croix ». Il commence ainsi, paragraphe 174, « Une condition essentielle au progrès dans le discernement, c'est de s'éduquer à la patience de Dieu et à ces temps qui ne sont jamais les nôtres ». Est-ce que vous pourriez expliciter ce que le pape François entend par là, cette patience de Dieu parfois si déroutante pour nous.
Oui, et puis ces temps, les temps de Dieu qui ne sont jamais les nôtres. Hein. Dieu, c'est curieux, ne nous obéit pas toujours. Hein, et n'attend pas notre autorisation pour intervenir dans notre vie. Je crois que la pandémie est un parfait exemple des temps de Dieu qui ne sont pas les nôtres. Ce n'était pas prévu. Ça vient bousculer tous nos agendas, tous nos emplois du temps, tous nos projets, toutes nos manières de faire. Et ça oblige à un discernement. C'est ça le discernement, concrètement.
Cette pandémie n'a pas été voulue par Dieu.
Non, absolument pas. Pas voulue par Dieu, mais permise. Et c'est ça qui est difficile pour nous. Permis, pourquoi? Parce que Dieu nous laisse responsables de nos actes. C'est évidemment, et tout à fait logiquement, nous avons voulu un monde globalisé, une mondialisation des échanges. Et bien, c'est les échanges dans tous les sens. Et ça peut être aussi l'échange d'un virus, bien entendu. Et pourquoi ça a un tel impact économique? Ben parce que nos usines sont en Chine et que c'est justement en Chine qu'il y a eu le virus. Bon, tout est lié, nous sommes liés les uns aux autres. Nous ne formons plus qu'un seul village. Alors, on veut bien, lorsqu'il s'agit d'acheter à bas prix des tas de produits de consommation à n'en plus finir, dont énormément inutiles, complètement inutiles. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas ça que la jachère dans lequel s'est trouvé ce monde nous oblige à réviser? Est-ce que vraiment j'ai besoin de ceci, de cela, et encore de cela, et de courir, et d'aller toujours plus loin, et de surconsommer? Dieu ne veut pas la pandémie, mais nous oblige à nous poser des questions sur le sens même de ce que nous sommes en train de faire. Et là, nous avons besoin d'un discernement et d'une patience. Est-ce qu'il ne faut pas changer de rythme? Est-ce qu'il ne faut pas changer de rythme? Je crois que c'est la vraie question qui nous est posée. Je pense que chacun d'entre nous, paradoxalement, a bien vu que de briser ce rythme, cette course de folie, nous oblige à nous poser des questions sur ce que nous voulons.
Mais Jean-Emmanuel Dehaena, pourquoi est-ce que dans cette introduction à ce passage, on va dire clé, qui est la logique du don et de la croix, où le pape François parle de ce bonheur paradoxal qui est la vie chrétienne, en fait, il parle de la patience de Dieu et après de la générosité. On a l'impression que c'est comme deux préalables.
Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire que je crois que... comment expliquer ça? Nous avons peur, en fait, que Dieu intervienne dans notre vie. Et ce n'est pas nouveau. Ça se situe au chapitre 3 de la Genèse. Pourquoi ils se sont cachés? Parce que j'ai eu peur. Et pourquoi tu as eu peur? Parce que je suis nu, parce que je suis vulnérable. Chacun de nous, je crois, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous faisons un discernement, nous avons peur de notre vulnérabilité. Nous avons peur de nous retrouver à nu devant les autres, devant nous-mêmes, devant Dieu, bien sûr. Devant Dieu. Et ça, c'est le dernier paragraphe 175 que j'invite nos auditeurs à relire, hein, dans lequel on voudrait que Dieu soit exclu de certaines zones de notre vie. On veut bien que Dieu soit présent dans la vie religieuse, vous voyez, dans la vie spirituelle, mais pas dans d'autres, et surtout pas là où nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés, mais dans bien d'autres domaines. Voyez les vices, voyez le matérialisme, la course au matérialisme, l'égoïsme, il y a des replis sur nous-mêmes, il y a une façon de consommer, un autre endroit aussi, au paragraphe 172, le pape parle des fausses sécurités, enfin les sécurités sur lesquelles nous nous appuyons, qui empêchent Dieu d'agir dans notre vie, puisque nous mettons notre sécurité dans notre compte en banque, dans nos assurances, dans nos médecins, dans notre médecine, vous voyez, en ce moment, hein, en qui allons-nous mettre notre confiance alors qu'on n'a pas de moyens de combattre ce virus pleinement? Je crois que cette crise, c'est vraiment la crise aussi de notre rapport à la vulnérabilité, et particulièrement la vulnérabilité maximale qui est notre mort, hein, le fait que nous soyons mortels.
Alors si on cite justement le paragraphe 175 un petit peu plus loin, vous avez commencé de le faire, cela nous fait voir que le discernement n'est pas une auto-analyse intimiste, une introspection égoïste, mais une véritable sortie de nous-mêmes vers le mystère de Dieu. Je voudrais revenir sur cette logique du don et de la croix et de ce bonheur paradoxal dont parle le pape François, aussi paragraphe 174 qui revient, qui peut être mis en parallèle de cette véritable sortie de nous-mêmes, que nous soyons disposés à des renoncements jusqu'à tout donner. Le bonheur est paradoxal et nous offre les meilleures expériences quand nous acceptons cette logique mystérieuse. J'ai l'impression que là, il y a une clé à comprendre du combat spirituel. Quelle est-elle ?
Alors, il me semble, je ne prétendrai pas avoir la pensée du pape. Donc, je pense que c'est ce paradoxe. D'ailleurs, il cite, hein, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans les Actes des Apôtres », qui est une parole que l'on réfère à Jésus, mais qu'on n'a pas dans les évangiles. Donc, c'est assez intéressant, une parole un petit peu hors évangile, mais qui est attribué à Jésus lui-même. Plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire ce paradoxe que, en fait, nous pensons qu'être heureux, c'est de posséder assez spontanément. Hein. Bien sûr, on se bat contre ça. Bien sûr, on se dit, mais non, mais pas du tout. Il faut être généreux. Mais est-ce que c'est réellement le cas dans ma vie concrète ? Quand même, je mets malgré tout trop souvent mon bonheur dans mes possessions, qu'elles soient matérielles, mais aussi qu'elles soient spirituelles. Voilà, si j'ai des connaissances, une culture, ça me sécurise, vous voyez. C'est quand même beaucoup plus facile quand j'ai des choses que quand j'en ai pas, hein, de compter dessus. Or, ce sont très souvent de fausses sécurités. Et le pape nous invite à ce paradoxe de la croix qui est pas se donner. Alors, il y a aussi une maladie du don, hein, comme on dit. Hein, c'est-à-dire, on peut se donner de manière désordonnée. Vous voyez, comment donner ce que si je ne me possède pas moi-même, si je ne me connais pas moi-même, comment je vais pouvoir donner de moi-même ? D'où le discernement à l'intérieur de moi-même. Qui suis-je ? Où sont mes limites ? Où est ma vulnérabilité ? Donc, ça, c'est important. Et quand j'ai fait ce travail, Dieu va m'inviter à le laisser visiter cette vulnérabilité pour qu'il puisse déployer sa force dans ma faiblesse. Si je n'accepte pas mes faiblesses, il ne peut pas déployer sa force. Si j'accepte qu'il vienne visiter mes faiblesses, alors il va me donner le courage, effectivement, de sortir de moi-même. Hein, je reprends la citation que vous venez de faire. Hein, voilà, ce n'est pas une auto-analyse intimiste, une introspection égoïste, mais une véritable sortie de nous-mêmes. Mais il faut aller jusqu'au bout, vers le mystère de Dieu qui nous aide à vivre la mission à laquelle il nous a appelés pour le bien de nos frères.
On pourrait penser aussi à une autre phrase qui est souvent celle du pape François qui est « Je suis une mission ».
Je suis une mission. Tiens, ben je ne connaissais pas cette phrase, mais je le crois, oui. Et je suis une mission et de par mon baptême. Hein, c'est-à-dire que tout être baptisé, toute personne baptisée, de par son baptême, elle est en mission, elle est envoyée pour sortir d'elle-même et pour aller à la rencontre de Dieu et de ses frères. Et s'il n'y a pas cette sortie, ben, ça devient un repli sur soi. On l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est la question de la suffisance. Je deviens suffisant. Peut-être nous-mêmes, nous sommes-nous surpris à certains moments d'être un peu suffisants. Vous voyez, le genre de petites choses, pour être très très concret, à la sortie de la messe. « Oh oui, moi je suis comme ça, je ne suis pas comme un tel. S'il faisait un effort. » Vous voyez, ces petits jugements, ces petits qui sont mesquins qui nous empêchent, qui empêchent la grâce de Dieu de venir bousculer nos sécurités. Ou alors quand on nous met un peu « Moi, je sais quelle est la bonne doctrine. Moi, je sais ce qu'il faut penser, ce qu'il est bon de penser. » Et cette crise sanitaire nous a obligés à nous dire aussi cela. Hein, sur quels critères je m'établis pour discerner quel est l'appel de Dieu pour moi en ce moment.
Jean-Emmanuel Dena, le titre de cette exhortation apostolique qu'on a parcourue au long de cette année, donc en français, c'est « La joie et l'allégresse ». Est-ce que vous pourriez finir par un exemple, si possible, tiré de votre expérience, j'allais dire chose vue et entendue, voire visage rencontré, de cette joie et allégresse à laquelle on est promis? Ça peut paraître, on va dire, un chemin ardu que de lire ce texte, de prendre le temps de méditer, de faire ce travail de discernement, d'accepter qu'il y ait du combat dans nos vies. Mais dans le fond, à quelle joie supérieure ou à quelle allégresse on est appelé? S'il vous revient comme ça un visage ou une personne vous a dit « Ah voilà, ça c'est le travail de l'esprit, c'est la joie de Dieu à laquelle on est promise ».
Oui, il me revient un visage, d'autant plus paradoxal que c'est un non-baptisé, qui n'a même pas demandé encore le baptême, mais qui vit une expérience extraordinaire, justement, de discernement, de travail sur lui-même, quelqu'un de profondément traumatisé dans son enfance, et qui, du coup, a souffert gravement et souffre encore gravement parce qu'il est une plaie vive, en quelque sorte. Et j'ai eu la grâce, avec lui, de l'aider à découvrir, c'est lui-même qui a cherché, parce qu'il cherche la vérité, à découvrir que Dieu l'aime et qu'il l'aime dans sa vulnérabilité telle qu'il est. Et donc, lui qui, de par son traumatisme, avait coupé toutes les relations, et même coupé de lui-même, coupé de ses propres émotions, un peu un kamikaze, si vous voulez, fonçant, un peu tête baissée, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, tellement il souffrait, et bien petit à petit, avec la patience de Dieu, retrouver un autre rythme, trouver une espérance nouvelle. Et je vois, effectivement, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, son visage avec une vraie joie, mais voyez, pas une joie artificielle, pas une joie gnangnan, excusez-moi l'expression, mais une joie de celui qui, dans l'épreuve, ayant traversé l'épreuve, a découvert une perle rare et a envie que cette perle rare puisse se poursuivre. Alors j'espère qu'un jour il pourra encore aller plus loin et qu'il en viendra à demander le baptême et que il pourra découvrir la joie de cette source de vie qui est en lui, mais à laquelle déjà il croit, déjà il va vers cette source. Et oui, ça, c'est une très grande joie de pouvoir vous la partager ce matin, en espérant que beaucoup de nos auditeurs puissent eux-mêmes avoir des visages qui leur apparaissent, dans lesquels ils ont vu un progrès dans la sainteté, un progrès dans la vie spirituelle, et peut-être nous-mêmes aussi, je l'espère.
Eh bien, merci Jean-Emmanuel Dehenna de nous avoir accompagnés pour la fin de cette lecture. On ne peut qu'inviter les auditeurs à prendre ce livre sur leur table de chevet, pourquoi pas à le parcourir au long de cet été. On offrira aussi un coffret de CD pour ceux qui voudraient reparcourir ces émissions en prenant le temps vous pouvez aussi les retrouver sur le site internet, mais le coffret vous permettra d'avoir les 10 facilement accessibles. Un grand merci à vous Jean-Emmanuel Dehenna. Cette Merci émission Manu. A été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.